I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous avez 5 minutes? À quelle vitesse faut-il aller pour faire Paris-New York en 30 minutes? Un voyageur non entraîné supportera-t-il la pression? Comment coloniser Mars? Musk est-il un doux rêveur aux yeux des scientifiques? Toutes ces questions, on les a posées à François Forget, chercheur à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Accrochez-vous. François Forget, bonjour. Quand Elon Musk nous promet ou parle d'un voyage New York-Paris en 30 minutes, ça veut dire quoi concrètement en termes de conditions de vol? À quelle vitesse il faut aller pour assurer ce temps de vol?
On ne sait pas trop ce que ça veut dire au sens où Elon Musk a rajouté ce projet, cette idée un peu folle à la fin d'une présentation sans du tout la détailler. Sur le papier, l'expérience prouve qu'un vol comme celui-là est extrêmement violent, une forte accélération au départ. Et normalement, en théorie, la descente, la redescente, donc on monte, on sort de l'atmosphère, on accélère encore dans l'espace comme si on allait en orbite et puis on redescend. Et la descente, normalement, est extrêmement difficile. En théorie, devrait soumettre les passagers à des fortes gravités. Mais bon, lui, il a réponse à tout. Il expliquerait que en décélérant progressivement avec son moteur fusée, on peut atténuer cette décélération. La conclusion, c'est qu'on n'a aucun détail. Et en fait, il faut bien insister sur le fait que ce projet un peu fou était proposé comme une espèce de blague, en tout cas une parenthèse dans une longue présentation qui s'articulait surtout autour d'un projet de grosse fusée pour des voyages vers la Lune et Mars.
Alors effectivement, c'est une vidéo un peu clin d'œil qui a été mise en ligne, mais très détaillée sur un départ à New York près de la Statue de la Liberté, si je me souviens bien, et puis une arrivée aussi sur une aire d'arrivée dédiée à la fusée. Alors toujours Elon Musk fait toujours des annonces qui font sensation. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une idée quand même concrète derrière la tête? Est-ce que c'est des choses qui peuvent se mettre en place concrètement?
Alors ce qui est très impressionnant avec Elon Musk, ça qui devient un petit peu légendaire, hein, c'est qu'il annonce des projets un peu fous depuis de nombreuses années, en tout cas dans le cadre du spatial, la compagnie SpaceX. Il a dit « je vais faire des fusées », alors qu'il avait une expérience, donc on s'est dit n'importe quoi. Il a fait des fusées très performantes, il a gagné beaucoup de marchés, il a obtenu le marché de ravitaillement de la Station Spatiale Internationale en matériel, c'est des capsules Dragon, en astronautes, ça c'est pour l'année prochaine, les capsules Dragon 2, donc des choses que toute jeune compagnie fait normalement, on ne peut pas faire si rapidement. Donc, il le fait, il est souvent un petit peu en retard dans ses projets. Et donc, quand il annonce cela, on est obligé de le prendre plus au sérieux que bien d'autres annonces un peu folles qu'on entend souvent. À mon avis, il va construire sa grosse fusée. Je ne sais pas s'il l'appliquera au transport d'un point à l'autre de la Terre, mais il a vraiment des projets sérieux. Il proposera cette énorme fusée, en tout cas pour des lancements de satellites commerciaux, et il poussera une organisme comme la NASA à financer l'exploration des planètes avec cette fusée-là. Donc, à mon avis, la fusée va avoir lieu, ce n'est pas un propos en l'air.
Imaginons que tout ça se mette en place. Est-ce qu'en tant que voyageur, on pourra faire ce genre de voyage régulièrement? Je parle de New York-Paris en 30 minutes, ou est-ce que ça nécessitera un entraînement particulier tel des astronautes?
Alors, je pense que dans son esprit, ce serait un voyage absolument confortable, comme si on prenait l'avion. C'est un peu ce qu'il prétend. Il raconte que ça ne consomme pas tant d'énergie que ça, sous prétexte que, comme on sort de l'atmosphère, c'est vrai qu'un avion, l'essentiel de son carburant, est utilisé pour pousser l'avion à travers l'air, et c'est le frottement, en fait, qui est contrebalancé par la poussée des réacteurs et la consommation de carburant. Alors, sur une fusée, il peut dire que, quand on est hors dans l'espace, il n'y a plus de frottement, mais en réalité, il faut tellement de carburant pour monter puis redescendre, on le voit bien, sa fusée fait essentiellement une énorme quantité de carburant, et même s'il y a pas mal de place, ça consommera quand même plus de carburant qu'un avion, quoi qu'il en dise. C'est vrai qu'il dit le contraire. Moi, je pense que c'est pas possible. Et au final, je peux pas vous répondre plus que ça, puisqu'il y a aucun détail qui a été donné. Malgré tout, avec cette technologie qu'il a développée, qui sont quand même très intéressantes, c'est un des premiers vraiment à maîtriser le retour des fusées après leur lancement et leur atterrissage. Donc ça, c'est crédible. Et lorsqu'il fait cela, il peut tout à fait décider de maîtriser les poussées, c'est-à-dire les forces que vont ressentir les voyageurs. Et il pourrait tout à fait expliquer que la poussée au départ sera un petit peu plus que la gravité qu'on ressent normalement, mais à peine plus, et à la descente, pareil. Et à mon avis, c'est démontrable. Maintenant, je pense que ça consommerait trop de carburant d'une part, et d'autre part, ce serait extrêmement risqué dans un premier temps. Alors, peut-être qu'il y a 100 ans, nos ancêtres disaient que jamais on traversait l'Atlantique en avion, ce serait trop risqué. Donc, je ne vais pas m'avancer trop, mais a priori, ça paraît très risqué. Une fusée, c'est quand même un gros engin compliqué et risqué.
Et vous avez évoqué les ambitions de colonisation martienne également. Quelles seraient les contraintes d'un tel voyage?
Alors, pour aller vers Mars, avant de coloniser, il faut déjà envoyer des expéditions. C'est un petit peu comme, je ne sais pas si on peut dire par exemple que l'Antarctique est colonisée, ou c'est juste des expéditions qui se relaient. Donc, pour aller vers Mars, la difficulté, c'est qu'il faut faire un voyage de 6 mois dans l'espace, donc dans un espace, dans un environnement, dans un vaisseau spatial hein, qui ne soit pas trop petit. Une seule simple capsule ne suffit pas, il faut un peu plus d'espace. Ensuite, il faut, quand on arrive vers Mars, il faut descendre dans l'atmosphère et se poser, ce qui est très difficile parce que l'atmosphère de Mars est un peu trop fine pour que les parachutes marchent bien. Il faut vivre à la surface, qui est un environnement compliqué. Puis il faut redécoller, donc il faut apporter une fusée sur place, c'est aussi un défi pas facile, plus difficile que pour la Lune où la gravité est très faible. Sur Mars, la gravité est plus élevée, il faut une vraie fusée. Donc ça pose plein de problèmes que l'ONU propose de traiter d'une certaine manière, un petit peu résumé, je ne connais pas les détails, mais il y a plein de projets, notamment à la NASA, de projets très sérieux de développement d'une future mission à venir, qui sont dans les cartons. Ce que je sais, c'est que tous ces développements, toutes ces difficultés que je viens de lister sont tellement quand même difficiles, elles sont tout à fait maîtrisables, mais difficiles, ça demande beaucoup de travail et donc beaucoup de salaire et donc beaucoup d'argent. Et je ne crois pas qu'Elon Musk ait l'argent, lui. Alors peut-être qu'il va solliciter, il va essayer de convaincre la NASA de financer sa technologie plutôt que la technologie sur laquelle la NASA travaille actuellement. Mais pour le reste, je veux mal faire une expédition vers Mars tout seul.
Et on est à quel horizon? Est-ce qu'on va pouvoir voir ça de notre vivant?
Alors, c'est une très bonne question puisque ça fait 50 ans qu'on dit qu'on va aller sur Mars dans 20 ans. En réalité, la donne change. La donne change parce que la NASA a arrêté les navettes spatiales, va arrêter la station spatiale internationale. Ça a libéré des ressources. Et donc, même à budget constant, on pense maintenant que la NASA, en utilisant sa technologie ou en collaborant avec SpaceX, la compagnie d'Elon Musk, pourrait envoyer des hommes au moins en orbite autour de Mars, c'est une première étape vers l'exploration de la planète Mars, d'ici le début des années 2030. Voilà ce qui est dans les cartons. Ça paraît un rêve, puisque, comme j'ai dit, ça fait des années qu'on rêve de ça, mais cette fois-ci, c'est un peu plus réaliste qu'avant, encore une fois, parce que on dit cela en imaginant que le budget de la NASA reste le même qu'à présent, qu'il n'y ait pas un nouveau Kennedy, qu'il y ait un nouveau essor économique comme il y avait dans les années 60 qui permette de faire une mission l'équivalent d'Apollo. Non, Apollo, ça a consommé énormément d'argent à l'époque, mais il y avait vraiment une période dorée économiquement en tout cas, et on ne pourrait plus le refaire. Donc maintenant, avec le budget constant de la NASA, on peut imaginer quand même d'avoir des astronautes vers Mars dans les années 2030.
Mais ça veut dire que ce qu'annonce Elon Musk, vous, en tant que scientifique, vous le prenez au sérieux.
Alors, sachant qu'Elon Musk, lui, a annoncé un lancement en 2022. Et ça, je ne le prends pas au sérieux. Pour moi, c'est totalement impossible d'envoyer des hommes vers Mars en 2022 avec sa nouvelle fusée. Néanmoins, il va se passer quelque chose de très intrigant, c'est-à-dire qu'Elon Musk va essayer de développer du matériel sur ses ressources, en tout cas en utilisant des petits crédits et des petits contrats qu'il a avec la NASA pour le faire. Et ensuite, il va essayer de convaincre la NASA de mettre les bouchées doubles et de ne pas attendre les années 2030 et de le faire avant. Donc, Elon Musk, c'est relativement sérieux pour les années 2030. Avant, pourquoi pas. En tout cas, lui, c'est tout pour. Mais de manière générale, oui, c'est pas comme voyager dans le temps ou aller autour d'aller voir une autre étoile, hein, aller sur Mars. Ça coûte très cher, c'est compliqué, mais c'est faisable.
Très bien, ben, je vous remercie pour ce petit cours d'astrophysique.
Binge audio.
2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.